Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Wi-Fi Café Ambition. Voici votre co-animatrice Josiane Brousseau avec le beau Simon Rivet.
Salut, c'est moi, Simon.
Donc aujourd'hui, Simon, on va parler, d'actualité parce que le monde en 2021 semble éclater de partout.
On est juste au jour 8 et puis il s'en est passé des affaires.
Ensuite de ça, on va parler d'adaptation technologique.
S'adapter pour mieux survivre.
Et par la suite de la série Undercover a Billionaire. Welcome back sur le podcast!
Re-bienvenue pour la deuxième fois de l'année en 2021.
Aujourd'hui, on va faire une version un peu plus express parce que le temps, ça nous manque vraiment aujourd'hui. Donc, en 30 minutes...
Des choses beaucoup bougées pour nous en 2021.
Exactement.
On saisit des opportunités, mais on vous oublie pas. On aime le podcast. C'est une des choses les plus importantes pour nous dans tout ce qu'on fait. Donc, merci d'être avec nous.
Et notre objectif, c'est d'en faire 52 cette année. Donc, une semaine et avoir 50 000 écoutes.
Let's go! Bonne année à passer. Fait qu'on continue. On est sur la bonne voie pour le faire. Avant de commencer, il faudrait parler du sponsor pour cet épisode, je crois.
Le premier sponsor officiel de l'épisode. Donc, on a onship.ca qu'on vous a parlé à maintes reprises sur le podcast. Simon, explique donc c'est quoi onship, comment que c'est avantageux pour les commerces locaux de Longueuil et la Rive-Sud de Montréal et comment les gens aussi, les utilisateurs, peuvent en bénéficier.
Longue histoire courte, onship, c'est une entreprise de livraison locale sur la Rive-Sud de Montréal, un peu à la même manière que les gros que vous connaissez comme Uber Eats, Skip, DoorDash, etc., etc. La différence avec OnShip et puis les gros noms que tout le monde connaît, c'est qu'OnShip est 100% local et puis travaille avec justement des petites entreprises qu'on n'aurait pas l'habitude de voir sur ces grosses plateformes-là. Aussi, il vous permet de même faire livrer plein d'items de petits commerces locaux chez vous. Vous
pouvez... Que ce soit le fleuriste, l'épicerie ou encore un restaurant.
Un restaurant local, justement. Un de leurs clients, qui est un de nos favoris à nous sur la Rive-Sud, c'est Gusto. Gusto, qui est un des restaurants les mieux cotés sur la Rive-Sud.
Oui.
Qui livre avec eux. Donc, c'est bon autant pour les propriétaires de petites, moyennes entreprises, autant que, justement, pour les particuliers qui veulent se faire livrer, parce que les frais sont moindres que ceux qu'on voit avec les grosses plateformes aussi. Donc, c'est gratuit d'aller jeter un coup d'œil sur onship.ca, onship.ca. Et puis, malgré que c'est une entreprise locale, qu'est-ce qui est génial avec onship, c'est que les gens derrière cette entreprise-là, c'est des gens qui viennent du domaine de la technologie. C'est des gens qui sont branchés. Et puis, leur interface web pour magasiner local, c'est génial. Donc, à la place de, justement, faire le tour de la ville, aller commerce par commerce, justement, faire votre petite épicerie un dimanche après-midi, ben là, vous pouvez le faire à partir de onship.ca.
Et c'est vraiment moins cher que Corner Shop.
Pour le moment, c'est sur la Rive-Sud de Montréal, mais ils sont en train d'expandre éventuellement un peu plus loin.
Nous, on en sait un petit peu.
Donc, très cool service. Allez jeter un coup d'œil là-dessus. Onship.ca. Si une entreprise qui permet au commerce de s'adapter pour mieux survivre, c'est bien eux. Onship.ca. Je suis très fier et très content qu'aujourd'hui, justement, ils fassent partie de l'histoire de notre podcast. Merci d'être avec nous, Onship.ca.
Donc, parlant aussi d'actualité, tout ça, on va commencer avec ça parce que là, on est rendu au jour 8 au moment où est-ce qu'on tourne le podcast. Vous allez l'avoir, ça va être dimanche le 10, si je ne m'abuse, parce que cette semaine, je mélange dimanche et samedi, là. Mais bref.
Au moment où on enregistre, c'est le 8.
OK, parfait.
On est le 8 janvier, c'est ce qui...
Super. Donc, en ce 8 janvier, ça fait déjà 8 jours, et beaucoup de gens réclament un refund sur leur année 2021.
J'ai vu sur Instagram des gens qui disaient J'ai terminé mon essai gratuit de 7 jours sur 2021. Je crois que je vais canceller mon abonnement parce qu'il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. Ici au Québec, on a eu un reconfinement total.
Oui, avec le couvre-feu.
Pas la Gestapo, un couvre-feu. Deux choses différentes.
La Gestapo, le couvre-feu. Les goulags russes. Non, mais moi, à chaque fois, je vois les fils là, devant les épiceries, je suis comme, crime, on est-tu rendu en soviète?
C'est incroyable. Mais en gros, on part en confinement, on part, je crois, c'est jusqu'au 8 février, c'est ça?
Oui, supposément jusqu'au 8. Moi, je me dis jusqu'au mois de mars, avril.
Les écoles arrivent la semaine prochaine, ok, c'est correct. Moi, j'ai bien aimé l'école à la maison.
Personnellement, oui.
Ça a été bon pour nous. Ça a fait notre affaire. C'est pas tout le monde qui a su s'adapter, mais ça a été vraiment bon.
Exact.
Aux États-Unis, les élections se sont conclues. Joe Biden a gagné. C'est correct. C'est la démocratie. Les gens sont contents. Les gens ont voté. Les gens ont parlé. Donc, Joe Biden a gagné. Il y a eu des gens pas contents. Le Capitole est envahi. C'était la première fois en 200 ans que le Capitole avait été pris d'assaut, que j'avais lu à quelque part. Et puis ici, une chose qui me surprise, c'est que cet édifice-là n'était pas plus sécurisé. Surtout que c'est probablement un des, justement, au nom de la démocratie, un des endroits les plus importants.
Mais Simon, je m'excuse, mais tu dois regarder trop de films hollywoodiens, là, avec les. Toi, tu dis avec les.
Oui, et ça, je m'attendais qu'il y ait
des. Je sais que t'écoutes pas de films, c'était une blague.
En métal, je m'attendais qu'il y ait des barreaux, justement, dans les fenêtres, mais les gens rentraient comme ça, ben relax. Et puis, c'est dommage parce que ça a causé, à ce qu'on sait aujourd'hui, au moins 4 morts et plusieurs blessés.
Puis, on a vu des images chocs aussi.
On a vu des images, oui, très chocs, justement, là, de gens qui se tiraient dessus à l'intérieur. C'était ouch. Ouch, ouch, ouch. C'est dommage de voir ça. C'est dommage que ça l'aille à aller aussi loin. Et puis à chaque fois que je vois des choses comme ça, je dis, oh mon Dieu, mais tout se discute. Surtout dans un pays où est-ce qu'on a le droit de se faire entendre? Où est-ce qu'on a le droit d'avoir une tribune?
Qui est supposé d'être hyper démocratique.
Tout se discute. Et puis je trouve ça dommage que ça l'ait été jusque-là. À ce sujet-là, sur les médias sociaux, il est arrivé quelque chose que je n'approuve pas, mais que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec tout ce que Donald Trump dit, évidemment. Loin de là. Sur Twitter, justement, il parlait, il disait aux gens, ben, à un certain point, il a dit « Allez manifester. Si vous êtes pas d'accord avec les résultats de l'élection, OK, là, fair. Mais que Twitter ait dit parce qu'il a fait un appel à la violence, qui selon moi n'est pas du tout le cas, ils ont temporairement fermé son compte. Puis sur les autres médias aussi. Et moi, ça me met un peu mal à l'aise parce que je pense que les grandes entreprises de médias sociaux ne devraient pas être le juge de ça. Moi, ça me met mal à l'aise qu'une compagnie comme Facebook, Twitter.
Mais qu'est-ce qui est dangereux? C'est les fanatiques.
Exactement.
C'est les fanatiques.
La politique, c'est quelque chose de tellement tricky. La limite entre la liberté d'expression et puis quelque chose qui pourrait être l'incitation à la haine ou à la violence ou peu importe, que je me dis, c'est qui les grandes entreprises technologiques qui, normalement, je prends leur barre pour être le juge de ça? Moi, je pense qu'il devrait avoir un organisme tiers qui régule ce qui est dit, qui n'est pas dit, juste un organisme qui est rempli d'avocats, de juristes, de gens qui sont experts dans le domaine et puis qui peuvent clairement faire la limite. Oui, ces entreprises-là en ont, mais c'est qu'ils sont pas neutres. Ils sont pas neutres politiquement en faisant ça, puis ça me met extrêmement mal à l'aise.
Exact.
Ça me met extrêmement mal à l'aise parce que je pense que Twitter ne devrait pas être le juge de qu'est-ce qu'un président américain a le droit de dire ou ne pas dire, dépendant du contexte.
On est rendu dans un univers de censure. Tu sais, moi, je regarde, mettons, moi, je suis fan de romans dystopiques, OK? Pour ceux qui connaissent pas les univers dystopiques et tout ça, c'est des univers futuristes qui pourraient plausiblement arrivé en s'inspirant de contextes passés et futur.
Comme on l'a vu dans Cyberpunk 2077 dernièrement.
Oui, ou encore, la série que j'aime puis que beaucoup de femmes aiment, c'est The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate de Margaret Atwood. J'ai la série de livres, donc il y a deux livres qui ont été écrits à 35 ans à part. Là, c'est quand même historique que la madame a écrit un livre qui a monté en popularité seulement récemment. Et puis, La Servante Écarlate, ben, c'est un univers comme ça où tu regardes 1984 qui a été écrit en 1948. 1984 expliquait de la censure, mais en 1948, on a vécu un peu historiquement le même type de censure et tout ça.
Oui. Je suis d'accord. Mais regarde le cross, justement. Moi, je te parlais de Cyberpunk un peu plus tôt. Dans Cyberpunk, en 2077, ce n'est plus le gouvernement qui régule, contrôle les pays, les États, les territoires. C'est les grandes corporations qui ont pris tellement de place qu'ils agissent un peu comme un genre de gouvernement. Parce que c'est qu'est-ce qu'on est en train de voir quand une grosse corporation ferme de force la trappe d'un président américain.
Mais ça, tu le vois dans plusieurs trucs dystopiques, que c'est justement les grosses corporations, tu sais, comme Big Brother, justement, dans 1984. Ou encore, tu sais, comme je disais, dans Handmaid's Tale, que t'as plus le droit de lire, t'as plus le droit de faire ça, t'as plus le droit de faire ci. Tu sais, juste dans le temps des fêtes, on a censuré aussi François Legault quand il a fait sa liste de lecture parce que mentionné quelque chose. Après ça, ils l'ont mis, ils ont dit on s'excuse, c'était pas ça qu'on voulait faire, si ça, ça. Mais, tu sais. Exactement, parce qu'il y a un auteur qui faisait pas l'affaire d'une petite minorité. Comme je dis, c'est pas parce qu'on lit un livre qu'on adhère nécessairement à
j'écoute des documentaires sur des choses horribles, je lis des choses horribles.
Exactement.
C'est pas parce que tu lis un livre comme exemple Mein Kampf, qui est le livre d'Adolf Hitler.
Ou que Dianétique, tu sais, genre.
C'est pas parce que tu lis Dianétique que tu es pour et que tu es exemple scientologiste. Je pense qu'on doit s'intéresser aux choses. Il faut sortir la tête du sable. Puis si on comprend pas qu'est-ce qu'on considère être exemple les forces du mal, puis être les choses, justement, qu'on combat, il faut comprendre le passé pour mieux bâtir le futur.
Mais aussi d'élargir son inventaire de lectorat, pas juste, même si c'est une divergence d'opinion, et c'est qu'est-ce que je déplore, puis c'est qu'est-ce que j'aime beaucoup présentement avec un peu le podcast, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, on a des divergences d'opinion, on a des opinions que, on va dire, unpopular opinions, tu sais. Exactement, des opinions controversées, tu sais, même, je vais partir une série qui s'appelle Coffee Talk, là, hier, j'en disais des affaires que, t'es sûr que tu veux dire ça? Ouais, let's go, let's do this. Exactement.
La discussion aujourd'hui, ce que je trouve dommage avec les discussions de débat, c'est que on a d'un côté les gens qui disent qu'ils ont raison, puis de l'autre côté les gens qui disent qu'ils ont raison.
Il y a plus de nuance grise. C'est soit noir, c'est soit blanc. Tu peux pas avoir un nuancé, mais ça aussi, je trouve que, tu sais, les gens qui lisent pas, tu sais, moi je regarde là, tu sais, le Québec là, tu sais, tu regardes, c'est analphabète là, tu sais, je m'excuse, les statistiques disent que c'est des analphabètes fonctionnels, c'est-à-dire que vous êtes capable de lire et écrire mais pas de comprendre un texte. Il y a un problème. Tu sais, moi, genre, quand je lis un texte, je me pose des regards, tu sais, je prends pas tout à la lettre, tu sais, je prends le temps de lire, d'analyser. Simon, tu sais, je lis deux livres par semaine en moyenne, là, depuis le 2020, parce qu'avant, j'en lisais un par semaine en moyenne, un peu plus durant les périodes un peu plus calmes, mais une moyenne de un livre, deux livres, juste un livre par semaine, OK? C'est un objectif, là, 52 livres dans l'année. Je suis sûre que vous allez vous trouver plus grand, puis vous allez voir que vos affaires dans la vie fonctionne différemment. Pour vrai, moi, depuis que je me suis mis à relire puis tout ça, on dirait que je me suis ouvert un nouvel univers.
Absolument.
Tu sais, vraiment...
Sans lire...
Un documentaire.
D'être ouvert d'esprit, de comprendre. Parce que, comme tu disais, les gens vont dire « c'est blanc, c'est noir, fin de l'histoire ».
Exact.
Et puis, je pense qu'il y a tellement de nuances et de choses à comprendre dans tout. Surtout quand tu discutes avec quelqu'un qui a un avis contraire, tiens, lui, il se tient dans une position où est-ce que les choses sont peut-être différentes, où est-ce qu'il y a à voir les choses différentes.
Exact.
Est-ce que cette personne-là a pas été éduquée sur telle ou telle chose, ou peut-être est-ce que nous, on se trompe sur telle ou telle chose?
Ben,
et puis, je trouve ça dommage que les gens...
Cette semaine, j'ai fait une gaffe parce que j'étais émotionnelle. Ça, tu l'as même pas vu passer. Je t'ai même pas donné la chance. J'ai publié quelque chose sur Facebook. Mon avocate m'a appelé, elle a dit « T'enlèves ça tout de suite. » OK. Ça faisait peut-être 2 minutes que je venais de le publier. Mon avocate a checké tout ce que je fais, tout ce que je dis, parce que présentement, tu sais,
c'est... On a vraiment
exactement.
Du bon monde, vraiment.
C'est vraiment, fait que...
Mais je te l'aurais dit.
Ben non, mais elle disait « C'était correct, mais il y a une partie qui c'était pas correct. » Fait que, tu sais, c'était juste ça, parce que j'étais émotionnelle, parce que personnellement, je trouve que l'école à la maison, pis ça, c'est, tu sais, on parle d'opinion non populaire, là, pour nous, c'est une bonne chose. Comme présentement, Daphné a fait l'école à la maison ça pendant qu'on fait le podcast, puis j'ai dit, s'il y a une urgence, tu me textes, je te fais confiance, je te laisse l'ordinateur avec les programmes appropriés. Tu sais, je pense qu'il y a un contrôle des parents aussi à mettre, tu sais, sur qu'est-ce que t'as le droit, qu'est-ce que t'as pas le droit.
Pour le faire, parce que, tu sais, je suis sur le web, on connaît le web, puis on connaît les gens qui sont sur le web, puis on sait que ça peut être la plus belle chose, comme ça peut être la pire des choses. On sait que il y a une infinitude de connaissances, comme il y a les pires atrocités, mais aujourd'hui, il existe des manières, des logiciels, et puis des solutions pour contrôler le contenu, pour avoir toujours un œil sur qu'est-ce que l'enfant fait, la personne qu'on supervise.
Le soir, on a des rapports sur qu'est-ce que Daphné a fait avec un téléphone.
Et puis même à partir de notre téléphone, on peut voir qu'est-ce qui se passe en temps réel aujourd'hui avec certains logiciels qui permettent de le faire.
Exact.
Donc, moi, je trouve ça fantastique. Mais avec tout ce que je connais, tout ce que je sais, un enfant, là, peut-être, on va dire, de moins de 10-11 ans, encore là, je suis pas un expert en petite enfance, mais en enfance.
Exact.
Mais... Je serais mal à l'aise de donner complètement l'ordinateur, mais par exemple, le faire en ayant une supervision totale grâce aux outils qui existent, je trouve ça génial, puis je trouve que c'est quelque chose de très bon.
Exact, cette semaine, j'ai tout planifié mes meetings pendant que, justement, Daphné avait l'école à la maison. Fait que comme ça me donnait la chance de, tu sais, OK, je prends tous mes meetings pendant l'heure que tu as à la maison, je fais mes choses, ou tu sais, mon podcast, ou tu sais, ces choses-là pendant que tu es à l'école. De toute façon, faut que tu écoutes ton professeur. Maman serait pas à l'école, tu sais. Je veux dire, je serais pas dans sa classe, tu sais. Moi, je trouve ça très drôle, tu sais, les parents, tu sais, je peux passer à côté, mettons, je vais aller à la salle de bain ou, tu sais, des choses comme ça, parce que je l'ai mis dans une pièce centrale, tu sais.
J'écoutais Daphné de loin, tu sais, je suis dans l'autre pièce, j'attends un peu, puis il y a des parents qui interviennent à chaque, comme, 20 minutes, je trouvais ça bizarre, je me dis, pauvre professeur qui a des règles avec ça, il y a des parents qui sont littéralement à côté des enfants pendant que l'enfant, tu sais, tu le vois sur la caméra pendant que l'enfant est là, je me dis, my God, tu sais, moi, j'entends un peu qu'est-ce qui se passe, parce que je suis dans la pièce à côté, mais il y a des parents qui sont littéralement là, puis je fais comme...
Exactement.
T'es pas en classe de ton enfant, là, quand il apprend, c'est un peu too much.
C'est ça, c'est comme, my God, c'est too much. Puis tu sais, je pense que le confinement nous a appris beaucoup de choses comme ça, tu sais, de justement, puis... Là, c'est ça. On s'en va vers vraiment quelque chose qui s'en vient très, très... c'est les big corporations technologiques commencent à avoir le droit sur la censure. Moi, j'ai même commandé ça. Un livre que, tu sais, justement, que j'ai eu... ça ressemble à du complotisme, mais c'était pas du tout le cas, que j'ai acheté durant la pandémie. Puis il y a des sujets sensibles, tu sais. Êtes-vous sûr que vous voulez... Par Amazon, là, êtes-vous sûr de vouloir acheter ce livre-là? C'est spécial, hein? On est rendu là.
Ben oui, je vais acheter ce livre-là parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il parle.
Exactement.
Je veux dire, tu sais, je reviens à l'exemple de Mein Kampf, le livre d'Adolf Hitler. C'est pas parce que je lis Mein Kampf, exemple, que je veux faire un génocide. Non, je veux plus comprendre comment est-ce que t'arrives à ce point-là. C'est quoi la psychologie derrière ça?
Tu sais, c'est comme le seul passage d'un homme d'horreur, tu sais. Un chef d'État qui se rend à faire des grimes.
Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux comprendre comment on arrive là? C'est pas pour s'en inspirer, pour faire de grands. Voyons, non, c'est absurde.
Exact.
C'est qu'est-ce qui s'est passé pour arriver là? Puis ça, c'est intéressant. Ou The Art of War de Lao Tzu, je pense.
Oui, exactement.
C'est pas parce que tu lis ce livre-là que tu dis, moi, je vais me bâtir une armée, je vais aller à la guerre. Non, il y a beaucoup de ces principes-là qui sont utilisés dans le monde des affaires.
Exact.
Puis, c'est intéressant de comprendre les nuances, c'est intéressant de se poser des questions, c'est intéressant de le lire de plusieurs.
Surtout pour tout ce qui est négociation ou, tu sais, genre, à un moment donné, parlant de Art of War, il y a un épisode incroyable Bart Simpson, des Simpsons, OK? Moi, je suis fan fini des Simpsons, OK? C'est des années, j'écoute ça et tout ça. Et à un moment donné, Bart Simpson se met à lire. Mais le premier livre qu'il lit, c'est Art of War, puis il arrête pas de faire des mauvais coups avec ça à Homer. Puis là, Homer se rend compte que c'est grâce à ce livre-là. Fait que Homer se met à lire aussi. Écoutez, c'est un épisode incroyable de beaucoup, puis tu sais, humoristique, mais on apprend des choses que, tu sais, justement, Art of War peut s'appliquer à n'importe quoi. Tu sais, c'est...
Exactement. Donc, on parlait de s'adapter pour survivre, c'est entre autres aussi avoir un esprit ouvert,
exact,
ne pas faire de résistance au changement, et puis penser justement comment est-ce qu'on pourrait s'adapter pour 2021 et au-delà. Comme on disait un peu plus tôt, je pense que 2020 a été une année qui a fait du ménage. Il y a certains qui ne méritaient pas justement d'avoir autant de misère, que leur entreprise struggle autant, mais si tu fais de la résistance volontaire à t'adapter en disant, exemple, le web, c'est un fade, ça va passer, c'est terrible.
Ouais, mais justement, je trouve que 2020, ça a été le premier pion à accélérer le jeu.
Oui, exactement. Ça n'a rien changé. En réalité, 2020 n'a rien changé. Ça l'a juste accéléré.
Des moyens technologiques qui étaient déjà là.
100%. 100%.
Exact.
Je suis très d'accord avec ça. Parlant justement de quelque chose d'énorme ces derniers jours, depuis le début 2020 et puis depuis fin 2020 puis début 2021, la cryptocurrency, la crypto-monnaie, je veux dire qu'on l'aime pas, qu'on y croit pas, les chiffres sont en train de défoncer toutes les all-time highs. On a vu le Bitcoin dépasser les, je pense, 55 000 $ canadiens à un certain point. 50 000, oui. Je sais que le 50 000 $ canadien était dépassé. En ce moment, j'ai dit devant moi 40 000 $ US, 40 788 pour le Bitcoin, 1 200 pour l'Ethereum. C'est extrêmement gros, c'est extrêmement haut. Et puis, on entend même que les banques commencent à se faire des réserves de crypto-monnaie.
Mm-hmm.
Ça fait quand même 10 ans que ça roule d'une manière, on va dire, mainstream ou semi-mainstream. Fait que je pense qu'on est passé le point de dire que c'est un fade après 10 ans.
Exact. Tu sais, donc, je pense que aussi, qu'est-ce qui a accéléré ça? Ben, tu sais, il y a tout qu'est-ce qui est Joe Biden, que tu disais, les banques qui commencent à... Tu sais, ils ont passé une loi que les banques ont le droit d'investir en crypto-monnaie, quelque chose comme ça.
Quelque chose comme ça. Faudrait que je lise le texte exactement, mais oui.
Mais
plus en plus impliqué dans l'achat et la revente de crypto-monnaies.
Et beaucoup disent que Elon Musk aurait aussi investi beaucoup au début des années 2000 en crypto-monnaie, là, tu sais, quand ça a commencé, là, très longtemps, puis qu'aujourd'hui, ça aiderait pourquoi qu'il aurait dépassé Jeff Bezos.
Fait que, je sais pas. J'avais pris une conversation de lui, puis il discutait avec quelqu'un d'autre de crypto-monnaie, puis il avait pas l'air tant au courant de ça. Fait que je sais pas.
OK.
Je sais pas.
Non, donc il faudrait lire
ça. C'est vrai aussi.
J'ai
besoin de connaître ça pour stacker.
Non, mais c'est ça. T'sais, à un moment donné, c'est de filtrer l'information aussi de qu'est-ce qu'on lit.
Puis exact.
Il y a tellement d'informations sur les médias sociaux, des fois, que tu vois juste un passé, puis tu n'as pas le temps de vérifier la source.
C'est quelque chose de jeune, de cool, puis de révolutionnaire. Qu'est-ce que je trouve dommage avec la crypto-monnaie, encore plus que la bourse ou que n'importe quel autre, on va dire, véhicule financier? C'est la bullshit qu'on entend dessus. Hostie de Christ, de tabarnak, la merde qu'on entend là-dessus, c'est incroyable, dans le sens où est-ce qu'il y a beaucoup de choses de vraies, mais il y en a encore plus de fausses. Choses que les gens disent. Tu sais, moi, j'y crois. Je crois fermement que c'est un futur. C'est pas mon seul cheval de bataille, mais les gens, des fois, les choses qu'ils disent ne donnent pas de
bon sens.
Bon sens.
C'est pour ça que moi, j'en m'embarque pas là-dedans, parce que je connais pas ça. Fait que moi, quand je connais pas ça, je vais faire mes lectures, je vais faire, tu sais, mes recherches, je vais poser beaucoup de questions à Simon, que lui, c'est plus tout ce qui est économie, un peu plus son cheval de bataille. Moi, c'est plus tout ce qui est littéraire, culturel, pas que c'est pas intellectuel, mais tu sais, genre, je suis plus dans le monde du divertissement, pis c'est ça qui me passionne. Tu sais, je veux dire, je suis plus, tu sais, je comprends, tu sais, genre, j'ai des investissements en technologie, j'ai des investissements un peu partout, mais ça, c'est comme Simon qui s'occupe de ça, je trouve. Donc, ouais, non, c'est en ce moment.
Ouais. Ouais. Non, il y a des choses vraies puis des choses pas vraies. Puis, en gros, c'est de filtrer l'information. Encore là, quelque chose qui, je pense, plus le monde avance, plus les canaux de communication sont ouverts, sont divers, plus on donne la parole aux gens, plus qu'il faut faire nos propres recherches et puis être ouvert d'esprit sur l'information qu'on va chercher.
Mais faire ses propres recherches, c'est de vraiment faire c'est des vraies recherches.
On parle pas de lire un article fake une fois à une place. Si t'as un doute que l'article a des faits ou des faits erronés, un texte qui donne pas d'allure, tu fais tes recherches sur le sujet. Tu vas consulter plusieurs sources. Tu vas voir qu'est-ce que les sources crédibles disent.
Mm-hmm.
Ce n'est pas difficile de faire ça. Là. C'est quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui devrait être fait. Puis, ça devrait être fait.
Exact.
Autre chose intéressante qu'on a vue dans les derniers mois,
oh my God.
Dernière semaine, Undercover Billionaire.
Oui, donc ça... Moi et Simon, on suit un entrepreneur américain qui s'appelle Grant Cardone depuis des années. Là, je regrette d'avoir partagé 10X Rules à quelqu'un puis qui m'est jamais revenu. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi, maintenant, il est difficile à trouver au Canada, uh-huh. en raison, tu sais, des frontières à semi-fermées, puis tu sais... Exactement, puis là, tu sais, genre, même Amazon me dit, ben, tu peux pas l'avoir, genre, avant le, comme, mois de mars. Fait que je suis comme, ah, parce que c'est le livre que je lis une fois par année. Et je suis Grant Cardone depuis à peu près, ben, en fait, depuis que je sors avec toi, depuis 5 ans, c'est toi qui m'as présenté, 10X Rules, c'est peut-être le deuxième livre que tu m'as fait lire.
Ça faisait pas longtemps que je le connais qu'on a commencé à sortir ensemble.
Ça se faisait peut-être un an ou deux parce que t'avais vu son émission Turner, truc King, là, tu sais, genre King. King, ouais. Oui,
puis
c'est
après,
ça.
Je me suis intéressé un peu à ce qu'il fait. Encore là, comme tout, puis tout le monde, on en prend, on en laisse. Il y a des choses vraiment intéressantes qu'il fait, des choses qui n'ont pas de maudit à l'heure.
Exact.
Mais je veux dire, le gars, il
est milliardaire, tu sais.
Il a fait quelque chose. Il serait en valeur nette.
Oui, ben c'est, mais pareil. T'sais.
Mais oui, oui, totalement, totalement. Je veux dire, bon, encore là, les claims sont à vérifier.
Oui.
Mais qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'il a bâti plusieurs grosses entreprises et puis que c'est une personnalité connue mondialement. Justement, parce que c'est une personnalité connue mondialement, il a passé à l'émission Undercover Billionaire. En gros, Undercover Billionaire, c'est une émission où est-ce qu'ils prennent des multimillionnaires ou des milliardaires et puis ils leur donnent un challenge. Le challenge est que en, je crois, 90 jours, c'est ça, Josiane?
Oui, 90 jours.
90 jours.
Faire 1 million.
Ils doivent générer 1 million de dollars, mais à partir de 100 dollars. Donc, ils commencent avec 100 dollars dans une ville où est-ce qu'ils connaissent personne, avec absolument rien, dans la rue, littéralement comme des hobos, 100 dollars et puis à partir de zéro, sans contact, sans quoi que ce soit, ils vont justement bâtir une entreprise ou un projet ou peu importe qui va leur rapporter pour 1 million de dollars. Hey. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ces gens-là qui ont plein d'expériences dans la vie être justement jetés dans la merde puis vivre vraiment comme des sans-abri, là, littéralement, et puis les voir bâtir brique par brique leur entreprise et puis passer à travers la même adversité que un entrepreneur qui débute en affaires avec rien va passer à travers. C'est vraiment cool. La première épisode est sorti avant-hier. Justement, on devrait l'écouter, mais le concept est vraiment, vraiment, vraiment cool.
Et il change d'apparence aussi, c'est sûr qu'il
change d'apparence pour pas que les gens le reconnaissent parce que c'est des personnalités publiques. Puis il y a pas juste Grant Cardone, il y en a deux autres aussi. Dans cette saison-là, il y a deux autres filles. Une qui était propriétaire justement d'un gros studio de musique. Et puis un autre que j'ai pas trop compris c'était quoi là dans le trailer. Donc j'ai vraiment hâte d'écouter ça.
Exactement.
Undercover Billionaire. Moi, c'est le genre d'émission que j'écoute. Dragon's Dance, Shark Tank, Undercover Billionaire. J'ai de la difficulté à écouter, exemple, un sitcom ou une émission de télé normale, mais un show où est-ce que qui va montrer un peu la réalité entrepreneuriale puis la vraie vie, moi, ça me fait triper.
Bon, j'ai trouvé exactement combien. OK. Fait que dans le fond, son immobilier est estimé à 1 milliard. L'immobilier de Grant Cardone est estimé à 1 milliard.
Ça bouge beaucoup parce que.
Ouais.
ils refinancent, ils rachètent, ils revendent, ça bouge beaucoup.
Et c'est environ 40 millions de ventes par année sur son e-com.
C'est réaliste.
Tu sais, genre, je veux dire, c'est réaliste, c'est des chiffres. Parce que lui, il a fait sa fortune vraiment dans la vente de programmes de vente.
Ouf.
C'est dans la vente de programmes de vente, ça, c'est bizarre. Donc, tu sais, il apprend aux gens comment vendre, comment, tout ça. Et tu sais, on les a vus, ces programmes, puis tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, il y a des affaires que des fois, tu dis comme Grant...
Mais quand je porte un charge, il faut pas que tu sois fanatique. Tu sais, le problème, c'est quand tu deviens fanatique. C'est quand tu gobes tout qu'est-ce que quelqu'un donne d'une manière complètement inconditionnelle, sans penser.
Exact.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'en prendre un petit peu d'un paquet de génies, chacun dans leur domaine, pour faire un tout. Il y a des choses qui disent que je suis totalement pas d'accord, il y a des choses qui disent que je suis d'accord. Même chose comme Gary Vaynerchuk, qu'on suit beaucoup, qu'on aime beaucoup, en qui on croit beaucoup, justement. Il y a des affaires qui disent, je me dis, mon Dieu, bon, ça n'a pas d'allure. Comme il y a des choses qui disent que je suis complètement d'accord. Et puis, c'est ça qui fait qu'individuellement, justement, on est quelqu'un, on est intéressant. Tu sais, d'être un copycat exact de un ou de l'autre, c'est plat, c'est n'importe quoi.
Non, c'est
ce qui est intéressant, c'est quand, justement, tu prends la peine de te bâtir toi-même, justement, une mentalité.
Exactement. Ça se fait par l'écoute, justement, d'émissions comme Undercover Billionaire, ou, tu sais, lire des livres, tu sais, des choses comme ça. Tu sais, les gens me demandent, ouais, ok, je regarde, tu sais, comment t'as fait de partir Néo-Média de zéro à aujourd'hui? Mais ça, ce serait le fun de savoir qu'est-ce que tu ferais, toi, exactement, aujourd'hui.
C'est intéressant, ok.
On se fait le scénario hypothétique, ok.
Un micro Undercover Billionaire, ça serait quoi le plan de match?
Ouais, exactement.
Ok.
Ton plan de match à toi.
Je me servirais de qu'est-ce que je sais déjà et puis de qu'est-ce que je peux monétiser aujourd'hui sur le court terme. Parce qu'on s'entend, au début, on n'a pas d'argent, donc ça va être difficile. Exemple, d'aller flipper de l'immobilier ou d'aller acheter des stocks en bourse ou de faire qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup d'argent.
Moi, tu sais qu'est-ce que je ferais? La stratégie de Gary Vee.
Mais attends, je n'ai pas
fini. OK, bon, c'est bon. C'est bon.
Je vais juste commencer. Je te demanderai.
Ok, parfait.
Moi, je vais commencer.
Ah, j'ai envie.
Josiane, j'ai commencé.
Ah, oh, ben, commence.
C'est quoi tu veux faire?
Ah, non. Vas-y, continue. Ok, okay. Je prends les notes.
Donc, je ferai ce que je sais. Je trouverai un bon produit à vendre, une bonne entreprise à en faire la promotion. Et puis, je m'arrangerai pour, sur le court terme, faire des ventes. Ça peut être, exemple, aller vendre des services de création de site web. On peut faire quelques milliers de dollars de cette manière-là dans une très courte période de temps. C'est dépendant où est-ce que c'est, des services de construction, rénovation, où est-ce que tu peux signer des gros contrats dans une courte période de temps. Le but, ce serait d'aller chercher qu'est-ce que je pourrais faire qui, dans une courte période de temps, avec aucun argent, permettrait de générer un bon montant d'argent.
Mm-hmm.
Fait qu'en gros, ça serait par la vente d'un big ticket item, que ce soit des services de marketing web, création de site web, ou exemple, je pense dans le domaine de la construction, ça peut être intéressant surtout dans les endroits où est-ce que ça peut valoir la peine de le faire.
Mm-hmm.
Et puis le faire le plus vite possible, générer 1, 2, 3 ventes. Et puis ensuite, une fois que l'argent est arrivé, je pense que c'est intéressant de dire on va accélérer la machine pour faire plus gros, plus scale up. Par exemple, 90 jours, c'est short pour le faire. Donc, peut-être qu'avec l'argent initial, qu'est-ce que je ferais, c'est qu'après, exemple, avoir fait un 25 000, je prendrais cet argent-là pour le mettre sur cash sur, exemple, de l'immobilier qui serait en faillite. J'irais voir qu'est-ce qui est en faillite et puis qui est justement qui est sur le bord d'être saisi, que je pourrais acheter, faire un deal avec eux et puis ensuite flipper jusqu'à temps d'arriver au million. Encore là, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on n'est pas là, mais je pense que l'avoir, être compressé dans le temps puis que ce soit une course contre la montre, je le ferais de cette manière-là. Si ça serait à propos de dire je veux bâtir quelque chose qui reste dans le temps, je continuerai vers le chemin plus de la technologie, où est-ce que à place d'aller investir directement dans l'immobilier, j'investirais dans développer des logiciels sur le long terme qui vont être des solutions pour des moyenne grande entreprise. Et puis, je continuerai à justement investir dans la technologie, investir dans les logiciels et puis créer des technologies en interne. Ça, c'est sur le long terme si le temps n'est pas une restriction. Toi, Josiane.
OK. En 90 jours, moi, je partirais avec une stratégie que Gary Vee, en fait, le frère de Gary Vee a fait, puis que, tu sais, c'est le fun, puis tout ça. Moi, je m'amuserais à aller voir, parce que tu pars avec 100 $ en poche, hein?
Ouais, 100 $
en poche. 100 $ Qu'est-ce que tu fais avec 100 $ Oui, c'est sûr que, tu sais, genre, des services avec qu'est-ce que je connais, tout ça, mais je trouve que, des fois, c'est pas assez vite. Tu sais, genre, tu sais, tout ça. Fait que moi, comme, qu'est-ce que je ferais? Je prendrais ce 100 $-là, j'irais acheter des cossins au Dollarama ou, tu sais, sur les marketplaces, parce que, tu sais, au Dollarama, t'as des cartes d'hockey, t'as des choses comme ça, et tu les revends comme 2-3 fois le prix sur eBay. Fait que rapidement, ton 100 $ devient, tu sais, comme 3-4 fois tes profits, et je continuerais comme ça pendant à peu près un mois, jusqu'à temps, justement, d'avoir un bon cash down sur une maison et appeler les faillites et comme toi. Moi, c'est là où est-ce que je me différencie, mais après ça, le reste de la stratégie, c'est exactement la même que toi.
Génial. Génial. Moi, la seule chose qui est... Je trouve ça tellement cool avec eBay. Je pense que c'est une bonne chose. Par exemple, je trouve que eBay au Canada est un peu slow pour ces affaires-là.
Exact.
Être aux États-Unis, par exemple, il y a Sherald-In. Juste un peu limitatif pour eBay, mais j'adore l'idée.
Exact.
Mais j'adore l'idée, puis... En gros,
quitte à me faire un e-com, genre collector shop, puis tu sais, le voilà.
Ouais.
Tu sais, moi, je pense que...
Tu fais comment la promotion du e-com? Si personne te connaît, puis que t'as pas d'argent pour payer pour de la promotion?
Ah ouais, c'est vrai. Merde, c'est là que tu te dis, ouais, ça te prend un peu plus...
Ben quoi, ouais, c'est difficile, puis tu sais, j'ai déjà été...
Je pense que c'est aussi d'aller parler, tu sais, aussi, beaucoup à les gens, tu sais, aller parler, faire du porte-à-porte. « Hey, regardez, je viens d'ouvrir ça. »
Tu sais, je me rappelle, c'est drôle parce que, tu sais, on dit, hey, ils sont jetés dans une ville qui connaissent personne et puis tout. Tu sais quoi, j'y pense, je l'ai vécu.
Mm-hmm.
Tu sais, je suis arrivé à Montréal à l'âge de 16 ans. Je connaissais personne, je vivais toute seule. Et puis... La première job que j'ai eu dans la région de Montréal, je faisais du porte-à-porte puis je vendais des forfaits d'entreprises locales. C'est quelque chose qui se fait plus. C'est un peu comme Groupon.
Mais
à l'époque, il y a à peu près 15 ans de ça. C'est un peu comme Groupon, mais à la place d'être sur le web pour acheter un forfait de choses X, Y, Z, on faisait du porte-à-porte pour dire « Hey, il y a quelqu'un qui fait des massages en ton coin qui a quelque chose à offrir. Hey, il y a un garage qui fait des changements d'huile. »
Oui, je me souviens de ça, depuis les années 2000, ça. Là.
Puis, c'était quand même des bons deals pour ceux qui prenaient, mais c'était extrêmement difficile parce qu'il faut que la personne ait besoin de quelque chose. Tu avais des cartes avec des deals. Et puis, à chaque 2-3 semaines, on changeait de territoire. Puis, c'était extrêmement dur. C'était dur physiquement parce que tu marches à longueur de journée. Justement dans la rue avec genre t'sais, habillé quasiment en sous, genre avec les souliers propres puis tout, j'avais les pieds qui faisaient terriblement mal, mais en même temps tu sors tellement de ta zone de confort.
Oui.
Tu vends les cossins des autres ou les services des autres en faisant du porte-à-porte du matin au soir avec d'autres personnes que tu connais pas, parce que quand on allait de territoire en territoire, tu sais, on prenait exemple, on était une dizaine, on prenait 2-3 autos, on était tous stackés un par-dessus les autres, fait que tu sais, t'apprenais à connaître les autres qui faisaient ça, puis c'était, je regrette pas de l'avoir fait, mais je referais pas. Par exemple, un jeune qui commence dans vie, qui a aucune idée où aller, qu'est-ce qu'il veut faire, puis qui dit, moi, je veux avoir du raw skill qui va me permettre d'être monétisé éventuellement.
Mais...
Le porte-à-porte ou la vente par téléphone, c'est tellement des choses qui sont douloureuses, mais douloureuses.
L'autre chose que je vois moins, puis que tu sais qu'on faisait dans le temps, puis qu'on se faisait quand même good money, là, tu sais, mettons, tu t'allais dans ton quartier, dans le voisinage, là, ça, je parle d'ado, là, tu sais, soit aller déneiger les entrées, ou soit, tu sais, justement, tu sais, dire, OK, ben regarde, je vais passer une fois semaine, donne-moi 5$.
Je faire ça, mais aujourd'hui, on dirait que c'est les gens retraités ou semi-retraités qui offrent ça.
Oui, exactement, mais avant
que les gens... jeunes font du dropshipping, yo!
On va faire un podcast là-dessus. On va faire un podcast la semaine prochaine là-dessus, parce que 81% de notre audience nous a dit, oui, faites un truc sur le dropshipping, un podcast uniquement sur le dropshipping. Fait que vous allez être gâtés. On va faire un podcast.
Que ça marche pas, puis pas que c'est pas faisable, mais c'est tout le monde se pitche là-dessus.
Exactement.
Comme si c'était le Saint Graal, puis la seule chose qui existait, le dropshipping. Yo.
Je t'ai dit ça comme ça, jeune, OK? Ma tante a dit ça, là, OK? Parce que j'en ai des neveux d'à peu près ton âge, puis c'est pas une blague, là. Fait que si tu as 16 ans, OK, va faire du porte-à-porte.
Ben, pas là, parce que le corona.
Ouais, pas là. Mais quand le corona sera fini, là, OK, mon astuce, mon plan de game pour toi avant de te lancer dans le dropshipping, ramasse-toi du cash, tu sais, pour faire la promotion, justement, puis te partir une vraie brand, une vraie entreprise.
Ouais, t'sais. Ben, je pense que ce qui est beaucoup limitatif pour tout le monde qui font du dropshipping, c'est de partir à partir de 0$. Ce qui marche, c'est justement de bâtir une réelle marque avec des réels produits brandés. Tu peux faire affaire justement avec des fournisseurs à l'international qui vont justement brander ton produit. Peut-être même des fournisseurs locaux, c'est intéressant. Et puis, de partir une vraie marque, par exemple, bien le faire, ça coûte de l'argent. Mais rendu là, tu peux dire, hey, je vais partir avec pas d'argent, mais moi, je suis capable de faire du e-com. Je vais m'associer avec, exemple, un graphiste qui va s'occuper de mon image de marque.
Mais là,
c'est quelqu'un qui est à l'aise avec les médias sociaux. Et puis, je vais m'associer avec quelqu'un qui fabrique un produit. Écoute-moi.
Oui.
Tout ensemble, on va mettre nos talents ensemble. Puis, ça va bien fonctionner. Ça va être mieux qu'une personne avec un type de skill qui se bat à contre-courant.
Mais
et ça, on pourrait en faire un podcast au complet.
Exactement, c'est ça que j'allais dire. On va faire un podcast là-dessus au complet. Fait que s'il te plaît, dis-en pas trop, parce que là, tu sais...
C'est même pas la pointe de l'iceberg, là, de ce que je peux dire, là.
Chut, faut pas le dire, ça, tu sais, faut wiper ça, là, encore. Là,
je sais, mais je veux dire, te dire à quel point c'est rien.
Puis on connaît la game, puis tout ça. Puis tu sais, je pense que le dropshipping, c'est un bon modèle d'affaires pour apprendre. Mais tu sais, genre, si tu veux gosser dans Shopify tout ça, puis après ça, de construire une vraie marque, je pense que c'est plus l'idéal. Mais bref, fait que là, ça fait plus que 30 minutes. Je pense qu'on a fait pas mal tout le tour des sujets qu'on voulait parler.
Ce fut très intéressant.
Exactement, c'était un podcast riche et tout ça. Autre chose, jusqu'au 8 février, je donne la formation gratuitement sur le télétravail. Donc, si jamais il y a des changements au niveau du gouvernement, puis que, tu sais, on finit comme en mars dernier à avoir les enfants à la maison ou peu importe, la formation est là, elle est gratuite jusqu'au 8 février. Je la mets jusqu'au 8 février. C'était supposé d'être jusqu'au 11 janvier, mais là, on a décidé de la mettre jusqu'au 8 février. Et jusqu'au 8 février, ben vous pouvez bénéficier d'une formation de quelques heures là, tu sais, juste pour vous donner nos tips and tricks justement sur comment qu'on gère les trucs à la maison, comment justement le travail à domicile, tu sais, de se faire un espace de travail, tu sais, du basic, mais qui a un plan de match réel. Donc, il y a pas de solution magique, c'est juste du gros bon sens, puis de s'adapter et d'apprendre à s'adapter et d'apprendre aussi à la famille au complet à s'adapter. Des fois, c'est un petit peu plus difficile, ça va prendre quelques jours, quelques semaines, mais vraiment, la formation sur Néo Académique est 100% gratuite. Vous pouvez aller la chercher. Sans ça, il y a toujours l'abonnement à 9,97 si vous voulez avoir plus de contenu, plus de formation et tout le kit.
Oui, exactement. En gros, sur Néo Académique, on a une tonne de contenu pour vous aider avec votre marketing numérique et à mieux travailler à partir de la maison. Merci d'avoir été avec nous pour la deuxième fois en 2021.
Exactement.
Ce fut un réel plaisir.
Et
s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on discute ensemble avec vous, laissez-nous le savoir. Merci à OnShip pour avoir sponsorisé cet épisode-là. Visitez onship.ca pour tous vos besoins de livraison si vous êtes une entreprise et puis pour tout vous faire livrer si vous êtes un particulier. OnShip.ca, c'est vraiment des gens géniaux. Tout le monde que je connais qui ont travaillé avec eux les aime. Allez les visiter.
Et n'oubliez pas aussi que sur ma chaîne YouTube, à partir du 9 janvier, on a un nouveau type d'émission, un peu comme un podcast, mais c'est pas un podcast, c'est Coffee Talk, Josie B Coffee Talk. Donc, c'est moi qui parle pendant 30 minutes de divers sujets. Et puis, je vous invite à aller voir. C'est vraiment le fun. T'sais, genre, c'est très naturel dans le bureau de Simon, enfermé, puis... Ouais, j'ai volé le studio pour faire ça. Puis Simon, il a bien apprécié. Ça a été mon premier. J'ai comme juste décidé de parler devant la caméra de divers sujets. Je parle de marketing, je parle de dropshipping, je parle d'économie, je parle de tranches de vie, de tout ça. Fait que, ouais.
Great.
Fait que c'est ça. Fait que ça finit le podcast. À bientôt.